Un excellent sabbat à vous tous. Le titre de mon message aujourd'hui, l'incroyable potentialité de l'homme. Et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup là-dedans. En tant qu'Église, vous savez que nous avons la mission d'annoncer un monde nouveau. Comme on voit dans Matthieu 24, verset 14, le Christ a dit, « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier » pour servir de témoignage, non pas pour convertir les gens, mais pour avertir de ce qui vient, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons présentement. Mais, pour l'instant, Dieu n'appelle qu'un tout petit nombre de personnes. Un tout petit nombre de personnes, c'est sa décision. Et la Bible est très claire là-dessus. La Bible parle d'un petit troupeau. Ce ne sont pas des millions et des millions d'individus qui sont appelés maintenant. Vous irez voir dans Luc 12, verset 32, le Christ parle de son Église comme étant un petit troupeau. Donc, c'est limité en nombre. Et dans chaque cas, c'est Dieu le Père qui appelle quelqu'un vers le Christ. C'est d'abord une décision de Dieu. Il n'y a pas personne, y compris moi et mon épouse et ceux qui sont là depuis longtemps, qui avons décidé de nous-mêmes de joindre l'Église de Dieu. C'est Dieu qui nous a mis dans l'esprit de désirer connaître ses lois et de commencer à les mettre en pratique. C'est ça. Ça a été sa décision. Et si vous comprenez des choses bibliques et que vous commencez à vous intéresser à ça pour les personnes nouvelles, c'est parce que Dieu vous donne de le comprendre. C'est parce que Dieu est en train de vous appeler à son Église, à faire partie de son tout petit troupeau. Jean 6, 44. Jean 6, 44 nous montre que dans chaque cas, c'est le gouverneur de l'univers, c'est le Père qui attire quelqu'un à Jésus-Christ. Ce n'est pas la personne qui décide de venir et ce n'est pas moi qui peux convertir quelqu'un à venir à Christ. Je l'aide à comprendre et je réponds à des questions en tant que ministre. C'est vrai, mais c'est le Père qui l'attire. Regardez, Jean 6, verset 44. C'est le Christ qui... dit ici, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est Christ qui parle. Il dit, « Nul ne peut devenir chrétien, nul ne peut se tourner vers moi pour faire la volonté du Père si le Père d'abord n'a pas décidé de l'attirer à lui. » Et il dit après ça, « Et je le ressusciterai au dernier jour si la personne se met à vivre selon les voies de Dieu. » Et qu'elle fait vraiment partie du petit troupeau en se repentant, en changeant ses voies. Et il dit, je vais ressusciter cette personne-là au dernier jour. Et c'est quoi le dernier jour? C'est le jour où le Christ va revenir sur la terre. Comme on voit dans Zacharie 14 et le verset 4. Zacharie 14, verset 4 dit ceci, ses pieds se poseront en ce jour, le dernier jour, le jour de la résurrection, le jour de la première résurrection, de la résurrection de ceux qui auront appartenu au Christ réellement, qui auront été attirés au Christ et qui vont marcher dans ses voies. Ses pieds se poseront en ce jour ou sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et si vous allez voir au verset 9 du même chapitre, il est écrit, « L'Éternel sera alors roi de toute la terre. » Il établira le gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Il mettra fin aux souffrances, aux misères humaines. Et c'est à partir de ce jour, le jour du retour du Christ, que tous les humains qui seront encore vivants à ce moment-là, qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale qui approche, c'est à ce moment-là que tous les survivants de cette guerre seront attirés au Christ par le Père. Tous les êtres humains survivants, ils seront appelés à ce moment-là à comprendre les merveilleuses vérités bibliques que vous comprenez depuis longtemps, si vous êtes dans l'Église depuis longtemps, que vous approfondissez et que vous découvrez encore davantage. Et pour les personnes nouvelles qui avaient le bonheur de découvrir pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Résultat, c'est que les gens vont vouloir apprendre les voies de Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Même quand quelqu'un parle de Dieu, il est mis de côté et dans plusieurs endroits publics, on refuse d'avoir les commandements exposés, comme aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais après le retour de Christ, il va se passer un changement total. Et vous irez voir dans Ésaïe chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit qu'à ce moment-là, des peuples se rendront en foule à Jérusalem et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel », c'est-à-dire au gouvernement de Dieu. Ce sera le siège central du gouvernement de Dieu qui sera établi à Jérusalem. Le Christ sera descendu sur le mont des Oliviers et il établira son quartier général à Jérusalem. « Venez et montons à la montagne de l'Éternel ». Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Les gens vont désirer apprendre à ce moment-là, parce que Dieu va leur donner de désirer de comprendre et il va lever le voile. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il parle du Christ après ça, qui sera à Jérusalem, il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Vous avez bien entendu, c'est que la guerre sera chose du passé. Ce sera terminé. Les gens vont changer avec l'aide de Dieu. Et c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons. C'est notre responsabilité. C'est le témoignage que nous donnons aux nations. Ça fait partie du plan de Dieu. Mais je vais plus loin maintenant. Et là, j'entre dans le thème de mon sujet, l'incroyable potentialité humaine. Le plan de Dieu s'accomplit par étapes et vise encore un but plus grand que de créer sur la terre un gouvernement juste, parfait pour les êtres humains qui seront là à ce moment-là. Dieu voit beaucoup plus grand que ça et a en tête, dans son plan définitif, quelque chose de beaucoup plus glorieux et de beaucoup plus grand qu'une simple société humaine qui va bien. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est au juste que l'incroyable potentialité de l'homme? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire va en étonner plusieurs. Vous serez surpris. Moi, quand j'ai découvert ces choses-là, j'ai été vraiment frappé par cette déclaration biblique, parce que ça vient de la Bible, quand on nous a enseigné quel était vraiment le grand but de Dieu pour avoir créé les êtres humains, qu'est-ce qu'il a en tête, on est surpris, et c'est normal. Mais il faut prendre le temps d'examiner les Écritures et de voir vraiment ce que Dieu dit, et que ce qu'il dit n'est pas hors de portée, c'est ce qui s'en vient et qui va se réaliser absolument de façon certaine. C'est que Dieu est en train actuellement de se préparer une famille. Famille divine. Non pas famille humaine, mais famille divine. À partir d'êtres humains. Dieu est en train de se préparer une famille. Dieu a planifié que les humains, acceptant de cesser de pécher pour vivre selon ses lois, naissent un jour dans sa famille en tant qu'être devenu totalement spirituel comme lui. Devenus totalement des êtres spirituels, des esprits, de même nature que le père de cette famille-là. C'est le grand but de Dieu d'offrir à chacun des êtres humains qui ont vécu, qui vivent actuellement et qui vivront dans le monde à venir, sur la terre en tant qu'être humain physique, d'avoir cette possibilité un jour de naître en tant qu'être spirituel dans la famille de Dieu. De devenir en quelque sorte ses enfants à part entière, de même nature que lui. Comme vous êtes de même nature que votre père et votre mère physique. Et Dieu est en train de préparer des enfants spirituels pour qu'on devienne totalement esprit, de même nature totalement que lui, des êtres spirituels nés dans sa famille. Je résume le grand plan de Dieu, l'incroyable potentialité humaine d'une autre façon, en d'autres termes. C'est que Dieu, actuellement, dans ceux qu'il appelle, est en train de se reproduire. Dieu est en train de se reproduire. Comment? En donnant de son Saint-Esprit à ceux qui acceptent de marcher dans ses voies, de se repentir, d'être baptisés et de recevoir l'imposition des mains par un ministre de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu place un dépôt de vie éternelle, un peu de sa nature, dans la personne en question. Et Dieu, à ce moment-là, est en train d'accomplir son plan, il va encore plus loin, dans la reproduction de lui-même, en train de se préparer une famille. Et ça, c'est une réalité tellement enthousiasmante. Parce qu'écoutez, c'est un avenir fabuleux auquel on n'a jamais pensé en tant qu'être humain. Il faut que Dieu nous le révèle pour qu'on soit capable de le comprendre. Mais faites ça. Après le sermon aujourd'hui, reprenez vos notes. Je vois que vous prenez beaucoup de notes et c'est bien. C'est comme ça qu'on peut approfondir des sermons et aller plus loin dans nos études personnelles. Revoyez ces choses-là et vérifiez par vous-même, dans votre Bible, les choses que je vous dis. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. On ne doit pas ajouter ni retrancher à la Bible. Hein? Certains m'ont dit ça lorsqu'on est allé dans les îles. Et c'est vrai, les gens m'ont dit « Vous prêchez selon ce qui est écrit ». J'ai dit « Oui, on ne peut pas ajouter ni retrancher, absolument pas ». Bon, maintenant, je reviens à ça. Dieu est en train de se reproduire. Il a commencé à se reproduire dans ceux qu'il appelle. Et il va continuer le processus dans ce qu'il va appeler plus tard. Allez dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant ici que vous allez voir sous un angle qui révèle vraiment le plan de Dieu. Jésus a décrit la nouvelle naissance dont je vous parle à Nicodème. Naître dans la famille de Dieu, c'est ça la fameuse nouvelle naissance que plusieurs églises du monde enseignent, mais sans la comprendre réellement. Plusieurs églises enseignent qu'on peut naître de nouveau alors que nous sommes chair et sang, ce qui est contraire à la Bible. Et ça va vous aider de vraiment comprendre cette réalité-là en examinant ce que le Christ lui-même a précisé par rapport à ce sujet-là. Jean 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. » Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, et regardez bien, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance, donc il faut qu'on naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Autrement dit, tant qu'on n'est pas transformé en être spirituel, on ne peut pas voir la famille spirituelle de Dieu. C'est ça qui est dit en d'autres termes. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, et on aurait posé la même question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, Nicodème pensait en termes physiques. Il dit, c'est ça la nouvelle naissance qu'il faut qu'on retourne dans le sein de notre mère et qu'on naisse de nouveau physiquement? Alors que le Christ était en train de lui parler d'une naissance spirituelle, et il va l'expliquer après. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, qui est la famille de Dieu. » C'est normal. Moi, je suis né dans ma famille humaine. C'est là que je suis devenu membre de la famille où je suis né. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit aux gens qui se repentaient et qui voulaient savoir comment faire pour entrer dans la vie éternelle ou entrer dans le royaume? Il dit, repentez-vous, soyez baptisés. Alors, ici, comme il dit, il faut naître d'eau, c'est-à-dire il faut passer par les eaux du baptême après avoir regretté nos fautes et demandé à Dieu de nous pardonner et de lui demander son aide pour vivre selon ses lois. On passe par les eaux du baptême et après, on reçoit le Saint-Esprit, comme j'ai mentionné, par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu qui annonce le sabbat, qui annonce les fêtes, qui annonce exactement la parole. Alors, à ce moment-là, ça explique qu'est-ce que le Christ dit ici. Si un homme ne naît d'eau, par le baptême et d'esprit, en ayant reçu une portion du Saint-Esprit au moment de l'imposition des mains, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je vais plus loin. Christ explique encore. Ce qui est né de la chair est chair. C'est pas dur à comprendre. Vous êtes né de la chair, moi aussi. Nous sommes chair et sang, tout simplement. Alors, après, il va donner l'opposé. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ça veut dire ceci. Quand une personne est née de l'esprit, elle est devenue totalement esprit. Elle n'est plus physique. Elle n'est plus chair et sang. Elle est être spirituel. Comprenez-vous? Alors, il dit, verset 7 ensuite, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » C'est-à-dire, quand on est né de l'Esprit, on peut se déplacer comme le vent, et aux yeux humains, on n'est pas visible. C'est ce que le Christ est en train d'expliquer ici. Voyez-vous comment c'est clair quand on prend les mots pour ce qu'ils veulent dire vraiment et qu'on met les versets de la Bible ensemble. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est une connaissance vraiment fondamentale parce qu'écoutez, ça touche le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé pour tous les êtres humains qui vont se repentir et qui se sont repentis dans l'histoire humaine. Cette nouvelle naissance, naître dans la famille divine, c'est ça. Cette nouvelle naissance, c'est de naître en tant qu'être divin dans la famille divine, en devenant totalement esprit, en recevant, en d'autres termes, la vie éternelle, parce qu'un esprit a la vie éternelle. En recevant la vie éternelle, en recevant l'immortalité, parce que l'immortalité, je n'ai pas besoin de faire un grand dessin pour ça, nous ne l'avons pas. Nous sommes mortels, nous avons une vie humaine physique limitée. Il faut que ça nous soit donné. Et la Bible est très claire là-dessus. L'être humain a d'abord été créé physique, de la poussière de la terre, vous et moi, et on deviendra à ce moment-là, quand on sera changé, entièrement spirituel. Et une fois complétée cette partie du plan de Dieu pour ceux qui auront été fidèles, cette création spirituelle de Dieu se sera faite en deux étapes. D'abord, une étape sur le plan physique, comme on est, et après ça, l'étape de devenir totalement être spirituel. Bien sûr, on pourra reprendre un corps physique au besoin pour être capable de servir les êtres humains après le retour de Christ, pour être capable de leur parler, travailler avec eux, les aider à enseigner à leurs enfants et tout ça. Mais on sera d'abord des êtres spirituels comme le Christ est. Je veux préciser des choses pour qu'on comprenne bien le concept. C'est quoi l'être humain? Qu'est-ce que l'homme? Si vous regardez dans des dictionnaires, la plupart vont vous dire que l'homme est un animal raisonnable et évolué. Faux dans les trois cas. Un, c'est pas un animal. Deux, il est pas raisonnable. Et trois, il n'est pas évolué tellement. S'il est évolué alors qu'il va plus vers la guerre puis vers le mal, puis ça, c'est pas une très belle évolution. Alors, les définitions de dictionnaire, pour la plupart, sont erronées. Ce n'est pas un animal raisonnable évolué. L'être humain, à cause du plan de Dieu, à cause de ce que Dieu a en tête, l'être humain est un être créé à l'image de Dieu, selon l'espèce divine, non pas selon l'espèce animale, selon l'espèce divine, même s'il n'est que physique au point de départ. Il est créé selon l'espèce divine dans sa potentialité. C'est pour ça que dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Voyez-vous? C'est selon l'image de Dieu et non pas selon l'image d'animaux. C'est une autre catégorie d'existence. Les animaux, eux, ont été créés selon leur espèce respective. Et encore là, c'est pour moi qui vous le dis. La Bible est très claire là-dessus. Vous irez voir Genèse 1, verset 24. Genèse 1, verset 24, Dieu a dit, au moment de créer les animaux, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Alors, les animaux sont créés selon l'espèce animale, avec les différentes catégories qui les forment. Ce sont des animaux. Et les animaux ont été créés avec un instinct. Ils ont un instinct, ce que nous n'avons pas. Les animaux ont un instinct qui détermine d'avance l'ensemble de leur comportement. Et c'est pour ça que les animaux agissent toujours à peu près de la même façon et qu'on peut prévoir leur comportement. Et quand on travaille avec les animaux, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire dans le passé, à cause du fait qu'on peut prévoir leur comportement, on peut travailler avec eux de certaines façons, les amener à faire certaines choses, et ainsi de suite. À l'homme, Dieu a donné quelque chose de différent. Dieu n'a pas donné un instinct, comme il a fait avec les animaux, comme un programme établi d'avance duquel on ne peut pas sortir. Dieu a donné à l'homme la capacité, lui, de penser. Capacité de penser. Capacité d'apprendre. Hein? Les êtres humains peuvent apprendre des langues, par exemple. Des langues différentes de la langue maternelle, de leur langue maternelle. les animaux. Aucun animal ne peut apprendre aucune langue même, ne peut pas parler comme un humain, encore moins apprendre des langues. Les êtres humains peuvent développer des aptitudes, comme apprendre à jouer de la musique, apprendre la peinture, les arts divers, ce que les animaux ne font pas, parce qu'ils sont programmés avec un instinct. Et dans l'homme, Dieu a donné la capacité de penser, de faire des expériences, de développer des aptitudes, de rire, d'apprécier les choses, d'avoir des projets, de faire des plans. Et vous avez jamais vu, par exemple, un oiseau dire, « Bon, moi, je vole à un tel niveau dans l'atmosphère terrestre, j'aimerais ça être capable d'aller plus loin, dépasser l'atmosphère terrestre et aller là où il n'y a plus d'air, aller vers la Lune et tout ça. Je vais me construire un vaisseau spatial et je vais pouvoir aller dans l'espace. » Jamais un oiseau n'a pensé à ça et n'a été capable de le faire. Mais les humains le font. Ils sont capables de maîtriser la matière pour arriver à faire ça. Mais les animaux ne peuvent pas ni apprendre une langue, ni jouer de la musique, ni faire des plans, et ainsi de suite. Les êtres humains sont libres, ils peuvent faire des choix. Et ils ont cette liberté de choix, avec soit des conséquences heureuses, s'ils font des bons choix, selon les lois de Dieu, ou des conséquences malheureuses, s'ils font des mauvais choix, comme on en voit le résultat dans la société du temps de la fin, alors que les problèmes augmentent. On va aller plus loin. Qu'est-ce qui fait cette totale différence entre l'homme et les animaux? Encore là, moi, je ne vous répondrai pas. Je vais vous dire ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux? C'est que Dieu met dans le cerveau de chaque être humain un esprit, ce qu'il ne fait pas avec les animaux. Il met dans chaque être humain, dans le cerveau de chaque être humain, un esprit. C'est un élément qui n'est pas physique. D'ailleurs, ceux qui font la dissection des cadavres vont ouvrir des cerveaux et ne trouvent pas d'esprit. Ils trouvent simplement de la matière. C'est autre chose. Dieu met dans le cerveau de chaque être humain un esprit, un élément non physique, c'est-à-dire un élément spirituel qui permet, et c'est justement ça qui permet à l'homme de penser, d'apprendre, de bâtir des choses, de faire des choix. Allez à 1 Corinthiens 2. Vous allez voir, Dieu l'explique clairement. 1 Corinthiens 2, verset 11, il l'explique par la bouche de l'apôtre Paul. « Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? » Donc, il est en train de dire ici, on est formé de matière, on peut connaître le monde matériel, on peut connaître les lois de la physique, de la chimie, ce qu'il y a autour, parce qu'on est des êtres humains et que Dieu a mis en nous une intelligence, un esprit capable de comprendre ces choses-là. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, la capacité de penser, de réfléchir, de bâtir des choses. Vous voyez la même chose d'ailleurs dans Job 32, verset 8. Vous pourrez aller voir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence humaine, qui n'est pas donnée aux animaux. Cet esprit dans l'homme, cette intelligence humaine, permet à l'homme de comprendre le monde qui l'entoure, mais par les cinq sens, par l'odorat, le toucher, le goûter, la vue, et ainsi de suite. C'est par ces cinq sens qu'il connaît le monde physique qui l'entoure, qu'il peut en découvrir les lois et les utiliser. Par exemple, quand on fait voler des avions, c'est parce qu'on utilise les lois que Dieu a mises dans la nature, qui fonctionnent toujours de la même façon. Alors, Dieu a donné à l'homme une intelligence à son niveau, mais par laquelle il est capable d'analyser les choses autour et puis d'arriver à travailler avec son monde physique, de réaliser des grands projets, de bâtir des voitures, même de changer de modèle et ainsi de suite, d'envoyer des sondes spatiales dans l'espace, de bâtir des gratte-ciels impressionnants, ce que les animaux ne font pas. Dieu a donné à l'homme cette capacité-là. Mais ça, c'est au niveau de l'homme. L'homme connaît les choses de l'homme par l'esprit qui a été mis dans l'homme. Mais ça arrête là. Il faut que Dieu intervienne pour qu'on comprenne les choses, pour qu'on puisse comprendre les choses de nature spirituelle. Parce que ça, juste l'esprit dans l'homme, juste l'intelligence humaine, ne permet pas à l'être humain de comprendre les choses de nature spirituelle. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de nature spirituelle. Et ça prend l'esprit de Dieu pour être capable de vraiment entrer en relation avec Dieu. Et ça prend l'esprit de Dieu pour naître un jour dans sa famille. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous pour être capable de naître un jour dans sa famille. Tout ça va ensemble. Voyez-vous, Au moment où on est maintenant, on est seulement à la première étape de la création de Dieu, de toute la potentialité de création de Dieu. Dans notre état d'être humain, avec l'intelligence humaine seulement, on est à moitié complet. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour être complet et être capable de comprendre les choses de Dieu. Et être capable de vaincre nos faiblesses aussi. Et de voir les choses comme Dieu les voit. Alors, à ce stade, avec seulement son esprit humain, sans l'intervention de Dieu, l'homme est incapable, je vais plus loin, l'homme est incapable de connaître le vrai Dieu. Je vous donne des exemples qui sont bien faciles à comprendre. C'est que l'homme s'est forgé toutes sortes de dieux, des bouddhas, des nommez-les comme vous voulez. L'homme s'est formé des dieux, mais il ne connaît pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu du sabbat. Le vrai Dieu, c'est le Dieu des fêtes. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de ce plan qui s'accomplit, qui a été annoncé dans les prophéties et qu'on peut vérifier. Le vrai Dieu qui nous dit, repentez-vous, changez, vivez selon mes voies et je vais vous bénir. Ça, c'est le vrai Dieu. Mais autrement, les êtres humains, ne connaissant pas le vrai Dieu, sont coupés de leur Créateur et se font des dieux selon leur image et toutes les religions que vous voyez. Alors que le petit troupeau de Dieu connaît le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à vivre selon ses lois, qu'ils ont reçu un peu de son esprit pour être capables d'aller plus loin et ça leur permet d'entrer en contact avec le gouverneur de l'univers et de développer la potentialité de devenir des êtres divins un jour en naissant au moment du retour de Christ dans la famille de Dieu. Ça permet de comprendre et d'accepter les choses spirituelles. Ce que les gens autour de vous ne peuvent pas. Même si c'est des gens parfois beaucoup plus intelligents que nous, ils ne peuvent pas comprendre les choses que vous comprenez. Moi, je me rappelle, j'en ai parlé ailleurs déjà, je me rappelle d'un monsieur qui est venu à l'église, qui a été baptisé, un homme âgé. Il ne savait pas lire. Il ne pouvait pas lire. C'est quelqu'un d'autre qui lui lisait la Bible. Il a compris le repentir, il a changé, il a fait ce qu'il fallait. Il a été baptisé et il est mort dans la foi. Il est même mort la nuit de la Pâque. Il avait insisté pour qu'on lui donne son habit parce qu'il voulait aller prendre la Pâque avec les membres de l'église et il est décédé la nuit même. Alors, ça ne prend pas des doctorats universitaires pour comprendre la Bible. Ceux qui ont des doctorats universitaires sont des gens très intelligents et je les respecte beaucoup, mais ils ne comprennent pas pour la plupart les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge, tout simplement, et que la Bible est claire là-dessus. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, par exemple, le sabbat. Les gens vont dire, bon, c'est des lois de l'Ancien Testament. C'était pour les Juifs, alors que le sabbat était fait pour l'homme et non pas pour les Juifs. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans, mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas leur reprocher. Absolument pas. Ils auront leur chance. Quand le temps sera venu, Dieu va ouvrir leur esprit après le retour du Christ. Et les gens autour de vous et autour de moi ne comprennent pas les fêtes de Dieu. Ils vont célébrer Halloween, ils vont célébrer Noël, ils vont célébrer les Pâques, ils vont faire le carême, toutes ces choses-là en pensant qu'ils plaisent à Dieu, alors que c'est des fêtes contraires à ce que la Bible montre clairement. Ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu et pour être capable de les mettre en application. Sans l'Esprit de Dieu, les êtres humains sont incapables de comprendre ce qu'est le salut. Et il y a des gens qui vont vous dire actuellement, bien sincèrement, « Moi, j'ai été sauvé telle date. » Ah bon? C'est pas ce que la Bible dit, parce que la Bible dit que le salut va être accordé au moment du retour de Christ. Et que le salut, c'est d'être sauvé de la mort éternelle, donc de recevoir le contraire, c'est-à-dire la vie éternelle, ce que nous n'avons pas à date. Alors, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le salut, pensent sincèrement que c'est autre chose, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ne connaissent pas les fêtes non plus, ne connaissent pas l'Évangile. Ils sont incapables d'accepter Dieu et d'accepter Jésus. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 2. On était là tantôt. Ils n'ont pas pu accepter le Christ, malgré les miracles qu'ils faisaient, malgré que dans leur livre, c'était écrit, noir sur blanc, qu'il allait venir à telle époque. Ils ont donné des signes évidents. Ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, c'est ce qui s'est passé. Regardez 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8. Paul parle, il dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu. » C'est vrai, on doit prêcher, nous, ce qui est écrit dans la Bible, la sagesse de Dieu. « Mystérieuse et cachée. » Elle est mystérieuse pour l'ensemble de l'humanité et elle a été mystérieuse pour moi jusqu'au jour où Dieu a décidé d'ouvrir un peu mon esprit pour que je m'intéresse à prouver les choses. Et la Bible nous dit « Prouvez les choses par vous-même. » Alors, Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, parce qu'il nous appelle à la gloire, à avoir la même gloire que le Christ, à naître dans la famille de Dieu comme le Christ est né dans la famille de Dieu, lui le premier-né de la famille divine, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse. Regardez maintenant le verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, au moment où le Christ est venu, n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que ça peut être plus clair? Les gens ne comprenaient pas, même les chefs religieux de l'époque ne comprenaient pas, ils ont fait tuer le Christ parce qu'ils ne le croyaient pas du tout. Ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'acceptaient pas le Christ malgré les miracles évidents qu'il faisait. Et regardez le verset, après ça, le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil humain seul n'a pas vu ces choses-là, et même s'il les regarde, il ne peut pas les comprendre. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Ça vient pas au cœur de l'homme tout seul de comprendre ces choses-là. Il faut que ça soit donné. « Qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. » Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et aimer Dieu, c'est marcher dans ses commandements. Alors, ces choses-là qui étaient mystérieuses, il donne de les comprendre à ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Tout ça, ça se tient, c'est formidable. Vous savez, il faut que Dieu nous donne son Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance, pour que nous soyons capables de comprendre les choses de niveau spirituel, les choses de nature spirituelle, en plus d'être capables de changer. On est dans 1 Corinthiens 2. Verset 11, première partie. « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » On a vu ça tantôt. Les choses matérielles, seul l'homme est capable de les comprendre. Faire des avions, des bateaux, des voitures, ainsi de suite, des belles maisons. L'Esprit de l'homme peut faire ça. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. C'est clair, là, regardez bien. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous que si Dieu ne me donne pas son Saint-Esprit parce que je suis en train de vivre selon ses lois, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. On peut en parler des heures de temps, des semaines de temps, des mois de temps, sans savoir de quoi on parle et sans vraiment comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de religions différentes sur la face de la terre qui prétendent toutes avoir la vérité, mais qui ne comprennent pas ce que la Bible dit vraiment et clairement et simplement. Regardez le verset 14 du même chapitre. Mais l'homme naturel, avec son seul esprit humain, sans l'Esprit de Dieu, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Sans l'Esprit de Dieu, l'homme naturel n'est même pas capable d'accepter les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Même les gens trouvent ça non seulement bizarre, mais insensé que nous croyions ce que nous croyons, que nous croyions au sabbat, que nous l'observions, que nous observions ses fêtes, que nous attendions le retour de Christ. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alors comprenez-vous que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas juger spirituellement et on ne peut pas comprendre. Il faut absolument le Saint-Esprit de Dieu pour croire Dieu. Et là, je fais cette nuance-là très importante. Il y a des centaines de millions de personnes sur la face de la terre qui croient en Dieu. C'est vrai, qui croient en Dieu. Mais il y a très, très, très peu de gens sur la face de la terre qui croient Dieu. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit et faire ce qu'il dit de faire. Ça, c'est croire Dieu. Croire en Dieu, c'est facile et ça peut apporter des émotions. Et il y a des religions qui sont basées sur des émotions, qui parlent beaucoup du Seigneur, et ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils pensent lui faire plaisir, mais ils ne l'ont pas encore connu. Ils le connaîtront quand Dieu va ouvrir leur esprit et qu'il va leur donner un peu de son Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vaincre nos fautes, qu'on peut croire avec certitude au retour de Christ. On ne voit pas le retour de Christ. Pourtant, on en est certain. Pourquoi? Parce qu'on a son Saint-Esprit et qu'on continue à faire sa volonté, qu'on croit au merveilleux monde à venir, qu'on croit aux promesses infaillibles de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est très, très simple. Quand Dieu attire quelqu'un au Christ, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit, là. Mais quand Dieu décide d'appeler quelqu'un parmi les milliards d'êtres humains sur la terre, il appelle quelqu'un et il met avec la personne. un petit peu de son Saint-Esprit, de sa puissance, pour donner de comprendre certaines choses. Et là, Dieu regarde ce que la personne fait avec. Vous regarderez Jean 17, Jean 14, verset 17, où il est dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui l'appellent, bien sûr, mais que son Saint-Esprit est avec ceux qui l'appellent avant d'être à l'intérieur de la personne. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de la personne seulement quand la personne s'est repentie, qu'elle a passé par les eaux du baptême, qu'elle a reçu l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Là, Dieu met son Saint-Esprit dans la personne et à ce moment-là, la personne est engendrée dans la famille de Dieu. Elle est un embryon de Dieu. Elle n'est pas encore née. Elle va naître dans la famille de Dieu au moment de la résurrection, quand elle sera transformée totalement en être spirituel. Voyez-vous comment tout ça se tient? Alors, quand Dieu décide d'appeler quelqu'un, je reviens à ça, Dieu donne à la personne un tout petit peu de sa puissance pour voir ce que la personne va faire avec. Si la personne commence à mettre en pratique ses lois, Dieu ajoute de son Saint-Esprit. Et ça va en proportion. Même chose à l'inverse. Si la personne cesse de mettre en pratique les lois de Dieu, l'Esprit de Dieu se retire graduellement. Et il vient un temps que la personne se demande même comment ça se fait qu'elle a compris des choses avant que là, elle ne comprend plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Dieu a retiré son Saint-Esprit. Acte 5, verset 32 est très clair là-dessus. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est clair, c'est noir sur blanc. Ne me croyez pas. Allez vérifier ces choses-là vous-même. C'est vraiment important de le faire. Romains 8, verset 14 nous dit ceci. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, comprenez-vous que quand Dieu donne son esprit à quelqu'un qui l'appelle, les quelques-uns qui l'appellent maintenant, que la personne avance là-dedans, qu'elle devient baptisée, qu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle devient enfant de Dieu, potentiellement, elle est engendrée seulement. C'est un embryon. Et à ce moment-là, la personne se sent interpellée. Elle va plus loin, elle veut obéir aux lois de Dieu et elle se met en marche pour réaliser l'incroyable potentialité de l'homme, c'est-à-dire de naître un jour dans la famille divine. Et le fait de savoir ça, ça ne donne absolument rien si vous ne passez pas à l'action. Connaître une chose, mais ne rien faire, c'est comme si on ne la connaissait pas. Des fois, je donne cet exemple-là et je l'ai donné dernièrement aux îles aussi. Si quelqu'un voit sur sa tablette, par exemple, ou son téléphone portable, qu'il y a un cyclone à un bout de l'île qui s'en vient vers là où est la personne et que ça a détruit déjà des villes entières et qu'il y a beaucoup de morts et tout ça, la personne est sur le bord de la plage, elle sait que le cyclone s'en vient. Mais si elle ne fait rien, c'est exactement comme si elle ne le savait pas. Et les conséquences sont les mêmes. La personne en souffre les conséquences. C'est pour ça que Dieu nous tient responsables des choses que nous savons. À nous d'agir. À nous d'agir en conséquence. Et ce sera pareil dans le monde à venir, quand les gens devront apprendre à obéir à Dieu. Ça ne viendra pas d'un coup sec. Les gens vont continuer à avoir des difficultés et parfois les gens vont pécher encore. On devra les enseigner, les encourager, les corriger, les aider. Tout ne se fait pas d'un coup. Dieu est patient, Dieu est bon, mais Dieu nous tient responsables de ce que nous savons. Et dans le monde à venir, tous les êtres humains seront enseignés et leur cerveau sera ouvert à la compréhension. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entendent le message de l'Église du Dieu vivant sur la face de la terre. On prêche presque dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Et c'est un témoignage qui va vers le monde entier. C'est ce qui nous a été donné comme mission. Mais on voit dans les textes aussi qu'il y a beaucoup d'appelés. Vous remarquez, il y a beaucoup d'appelés. Donc, parmi tous ceux qui sont sur la terre entière au moment où le message est donné au monde entier, Dieu appelle beaucoup. Mais il dit, il y a peu d'élus. Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais il y a peu d'élus. C'est quoi la différence entre les appelés et les élus? Les appelés, je reviens là-dessus, c'est ceux que Dieu choisit pour leur donner un peu de son Saint-Esprit pour voir s'ils vont réagir en désirant mettre en pratique ce qu'il leur montre. Ça, ce sont les appelés qui reçoivent un peu de son Saint-Esprit. Alors, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Un élu, c'est celui qui ensuite est choisi par le Christ parce que cette personne-là a commencé à mettre en pratique les lois de Dieu. Alors, cette personne-là, elle est choisie par le Christ comme faisant partie de son petit troupeau. Beaucoup connaissent la vérité, Un grand nombre sont appelés, mais très peu sont choisis par le Christ parce que très peu ont le courage. Ça prend du courage. Ont le courage et la détermination de changer des choses dans leur vie pour conformer leur vie aux lois de Dieu. C'est ça. Dans le fond, c'est simple. Et c'est intéressant qu'on comprenne ce processus-là parce qu'on voit la grandeur de Dieu à travers ça, puis on voit vraiment le chemin qu'il nous donne de faire. Et quand quelqu'un commence à comprendre les choses bibliques, c'est que Dieu est en train de travailler avec la personne. Ça, c'est toujours intéressant de voir ça. À ceux qui sont appelés et qui sont disposés à changer, Dieu va plus loin, parce qu'on parle du baptême à ce moment-là, lorsque la personne a fait un chemin pour comprendre la repentance, Dieu peut accorder le pardon de tous les péchés de notre vie passée et les effacer complètement comme s'ils n'avaient jamais, jamais existé. Ça, c'est la grande miséricorde de Dieu grâce au sang que le Christ a versé pour chacun d'entre nous et qui devient disponible quand nous nous repentons et que nous demandons d'être pardonnés et d'être baptisés. Et Dieu donne, au moment du baptême, le pardon de tous nos péchés dans un but encore précis. C'est le même but que le thème de mon message. En vue de donner à cette personne-là la vie éternelle un jour. De permettre à cette personne-là, un jour, de naître dans sa famille au moment du retour de Christ, si on est fidèle. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Regardez comment c'est clair. Tous les êtres humains ont péché. Tous les êtres humains, la Bible le dit à plusieurs endroits. Et on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'être lavé par le sang du Christ. Et regardez ce qu'il dit ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les êtres humains sont soumis à l'amende du péché, qui est la mort. Mais la mort éternelle, pas simplement la mort physique, la mort éternelle. Et regardez, c'est pour ça après qu'il donne l'inverse. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous avez bien compris, là. Et il faut mettre les deux en parallèle, si vous voulez. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais il dit, vous avez besoin de d'autres choses. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut que ça vous soit donné par l'intermédiaire du Christ, par l'intermédiaire de son sacrifice. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça veut dire devenir de même nature totalement spirituelle que le Christ, le premier-né de la création spirituelle. Le Christ est le premier-né de la création spirituelle de Dieu, de l'incroyable potentialité humaine. Lui qui était totalement être humain, qui est mort, qui a été ramené à la vie, mais à la vie spirituelle. Il est le premier-né de la création spirituelle de Dieu. Allez dans 1 Jean chapitre 3. Ah, ça, c'est un passage que j'aime particulièrement. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. On est toujours sur le même thème. L'incroyable potentialité de l'homme, ce que Dieu a en tête. Pas juste d'avoir la terre avec un gouvernement juste et des êtres humains physiques, mais de nous amener tous à un autre niveau d'existence, à naître dans sa famille en tant qu'être spirituel divin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, verset 1. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous sommes guidés par son Saint-Esprit. Et nous le sommes. Jean dit, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et voyez-vous, je reviens à ça, les êtres autour de nous, même ceux de nos familles physiques, bien intentionnés, qu'on aime, qui nous aiment, mais que Dieu n'appelle pas, ne peuvent pas comprendre ça. Alors, ils ne peuvent pas comprendre qui vous êtes. Parce que vous êtes une nouvelle personne. Maintenant, la Bible parle d'une nouvelle créature qui vit différemment d'avant. Et les gens autour ne peuvent pas comprendre. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu le vrai Dieu parce que Dieu ne les a pas encore appelés. Il va les appeler en son temps. Regardez verset 2, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, enfants engendrés de Dieu, on n'est pas nés de nouveau encore, enfants engendrés de Dieu. Et ce que nous serons, parce qu'il faut être transformé, n'a pas encore été manifesté. On n'a pas été transformé en être spirituel encore. Le grand but de Dieu, là. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ descendra sur le mont des Oliviers, lorsque ceux qui lui appartiennent fidèlement seront transformés en un instant, et lorsqu'au même moment, ceux de l'Ancien Testament qui ont été ses serviteurs, David, Moïse, Noé, Abraham, ainsi de suite, seront ramenés à la vie, à ce moment-là, nous serons semblables au Christ, nous naîtrons de nouveau. Nous aurons vécu la nouvelle naissance. Lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra sur la terre, nous serons semblables à lui, mais oui, de même nature que lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne pouvons pas actuellement le voir dans son état présent à la salle du trône, parce qu'il est redevenu l'être spirituel glorieux qu'il était depuis toujours. Mais à ce moment-là, nous pourrons le voir dans sa nature actuelle, dans son état actuel. Pourquoi? Parce que, comme il est dit ici, parce que nous aurons été transformés et que nous pourrons le voir tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 3 après, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Ça, c'est notre chemin en tant que chrétien, de continuer à travailler, à éliminer le mal de nos vies, le mensonge, tout ce que vous voulez, les pensées mauvaises, enlever tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Et c'est un travail de toute une vie. Il ne faut pas se décourager. Et il faut demander l'aide de Dieu constamment. Demandez et vous recevrez. Et il est prêt à nous aider parce que c'est son but, de nous amener à la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'immortalité, c'est ce qu'il veut nous donner. Alors, c'est pour ça qu'il dit, celui qui a cette espérance, à qui il est donné de comprendre cette espérance, mais qui l'a, veut la garder, il veut la réussir. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et regardez verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Comme l'inverse est vrai, l'amour de Dieu est la mise en pratique des lois de Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses lois, c'est mettre ses lois en pratique. Donc, il sera possible aux serviteurs de Dieu de recevoir la vie éternelle, l'immortalité, comment? Par une résurrection. 1 Corinthiens 15. Par une résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 50. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens, c'est le chapitre sur les résurrections. Verset 50. « Ce que je dis, frère, c'est Paul qui parle, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça doit vous rappeler, j'espère, les paroles que le Christ a dit à Nicodème. Quand il a dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est l'explication que le Christ avait donnée à Nicodème. Il faut qu'on soit transformé complètement pour hériter le royaume de Dieu, pour naître de la nouvelle naissance, qui est une naissance spirituelle. Pour le moment, nous sommes corruptibles. Des fois, je me plais à blaguer en disant, on est biodégradable. Au moins, ça peut servir à faire pousser autre chose. Mais le but de la vie, c'est pas mal plus élevé que ça. Parce que Dieu a en tête, à partir d'êtres humains physiques, biodégradables, de devenir des êtres totalement spirituels, glorieux, nés dans sa famille, pour vivre éternellement avec lui et pour faire des projets sensationnels, sûrement, que Dieu a en tête. C'est vraiment formidable, ce à quoi on est attendu. Alors, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible que vous avez et que j'ai revête l'incorruptibilité, qu'il devienne incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voyez-vous? Tout ça se tient. Verset 54, lorsque ce corps corruptible, le mien et le vôtre, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ce que nous n'avons pas pour le moment, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Les premières fois que vous avez lu cette phrase-là, peut-être que ça vous a, comme moi, un petit peu intrigué. La mort a été engloutie dans la victoire, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, on vient de le voir là, c'est qu'une fois que ce qui est corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, nous ne pourrons plus mourir. La mort aura été balayée, elle n'existera plus pour ces êtres-là, voyez-vous? Voyez-vous comment c'est fantastique le plan de Dieu quand on met ensemble les morceaux du puzzle de façon rapprochée comme ça? On voit la grandeur du plan que Dieu a pour chacun des êtres humains. Il veut que nous soyons ses enfants maintenant dans notre façon de vivre selon son Saint-Esprit, selon ses lois. Et il veut nous amener à naître un jour dans sa famille. Et là, je reviens au Christ. Il est notre exemple en toute chose. Comme le Christ qui est passé, lui, par le même chemin que vous et moi, nous passons maintenant. Il était entièrement humain. Il n'était pas demi-dieu et demi-humain. Il était entièrement humain. C'est pour ça qu'il a dû, à différentes reprises, supplier son Père dans ses prières en pleurant pour avoir l'aide dont il avait besoin. Il a vécu les choses qu'il a vécues et il a appris par les choses qu'il a souffertes, comme la Bible mentionne. Il est passé par le même chemin que nous sommes appelés à passer. Nous sommes des êtres humains physiques limités, comme le Christ l'était. Et il avait besoin de la force de son Père. Il la demandait et Dieu lui donnait, comme nous on a besoin de demander à Dieu régulièrement sa force. Maintenant, je vais plus loin. Le Christ est devenu fils de Dieu comment? Par la résurrection. Pas avant. Avant, il était potentiellement fils de Dieu. Il fallait qu'il réussisse son travail. Et après sa mort, qu'il soit ramené à la vie, mais à la vie spirituelle, à l'immortalité, par la résurrection. Et à ce moment-là, il a été le premier né, nouvelle naissance, premier né de la famille de Dieu. Le premier né dans le grand projet de famille spirituelle de Dieu. Il nous a ouvert la voie. C'est lui notre créateur, c'est lui notre sauveur. Allez, Colossiens 1, verset 15. Vous pourrez relire ces versets-là les uns après les autres en refaisant cette étude-là. Vous allez voir, c'est fascinant. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Oui. Le Christ, quand il est venu dans la chair, il représentait son Père dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. C'était l'image du Dieu invisible aux êtres humains. Mais lui était visible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Mais la création humaine, elle existait depuis longtemps. Adam et Ève avaient existé avant, les autres qui sont nés. Donc, il n'était pas le premier-né d'une création humaine physique. Il est devenu le premier-né de la création spirituelle de Dieu. Il a été le premier être humain à mourir et à être ressuscité en tant qu'être spirituel, naissant en tant que premier enfant de la famille de Dieu, dans la famille spirituelle de Dieu. Verset 18, c'est encore précisé, même chapitre, Colossiens 1. En parlant du Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Là, j'arrête. Pour connaître la nouvelle naissance, il faut naître d'entre les morts. Il faut avoir été mort et être ramené à la vie, mais non pas à la vie physique, mais à la vie spirituelle. Je fais une parenthèse, il y a eu dans la Bible des gens qui ont été ramenés à la vie physique, comme Lazare, par exemple, et tout ça. Ils n'ont pas été ramenés à la vie spirituelle. Ils ont été ramenés à la vie physique et ils sont morts une deuxième fois après, si vous voulez. Lazare a été ressuscité par le Christ, là. Mais ça restait sur le niveau physique. Mais ce qu'on parle ici, c'est une naissance de niveau spirituel. Le Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est ça, la nouvelle naissance. Et quand des êtres humains, au retour de Christ, naîtront dans la famille de Dieu, seront transformés totalement en êtres spirituels, ils vont vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Naître dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel divin. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Regardez le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, le Christ, qui a créé toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et filles de Dieu, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et regardez le verset 12, il dit ici, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », c'est le Christ qui parle, « Je te célébrerai », en parlant de son Père, « au milieu de l'assemblée ». Et regardez le verset 13, c'est tellement touchant. Moi, ça me frappe quand je lis ou que je revois ce verset-là, parce que j'imagine le Christ qui se présente devant son Père en parlant de nous, qui aurons réussi si nous tenons bon. Et regardez ce qu'il dit. « Et je me confierai en toi, et encore, me voici, et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est le Christ qui parle. Il dit « Me voici, Père, et les enfants que tu m'as donnés à prendre soin. » C'est lui qui est la tête de l'Église. Le chef de l'Église, le premier-né de la famille, le plus vieux de la famille. Et le plus vieux de la famille a toujours un rôle spécial à jouer. Et le Christ est le plus vieux de la famille. C'est lui qui ouvre la voie. Formidable, tout ça se tient. Pour le moment, la famille divine, je vous pose la question, se compose de combien de personnes? La famille divine, pour le moment, se compose de deux personnes. Le Père et le Fils. Celui qu'on appelle le premier-né d'entre les morts, le Christ. Les autres sont en attente, nous. Le Père et Jésus-Christ sont les deux qui font partie de la famille maintenant. Mais à son retour, ceux que Dieu a appelés au cours de l'histoire, comme je vous ai mentionné, Moïse, Abraham, Noé, et qui auront été fidèles, qui ont été fidèles, et ceux d'entre nous qui seront fidèles jusqu'à la fin, nous allons naître en même temps ou à peu près dans la famille de Dieu à ce moment-là, au moment du retour de Christ. Et qu'est-ce qui va se passer après? Apocalypse 5. Apocalypse 5. C'est le moment, je vous rappelle, où Christ va descendre sur le mont des Oliviers. Il va établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Et ceux qui auront été fidèles dans l'Ancien Testament, comme nous maintenant aujourd'hui, le petit troupeau, on va régner avec lui sur la terre. Comme c'est marqué Apocalypse 5, la moitié du verset 9, on parle du Christ. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » C'est le Christ qui a été immolé, l'agneau de Dieu. « Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est l'Israël spirituel. Dieu actuellement appelle des gens de tout peuple et de toute nation pour former une petite équipe qui servira, après le retour de Christ, à enseigner l'ensemble des nations, à les guérir, à les encourager, à leur montrer le sens d'histoire et à leur donner aussi de comprendre le but de Dieu, le grand but de Dieu. « Tu as fait d'eux, en parlant de ces gens-là, fidèles, tu as fait d'eux un royaume, donc un gouvernement, et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Là, on va commencer un travail extraordinaire en tant qu'être spirituel, ayant des capacités merveilleuses, tout en pouvant, comme j'ai mentionné, se matérialiser pour aider les gens, pour être vu, pour être entendu directement et tout ça. Mais à ce moment-là, on sera devenu parfait. On sera capable de ne plus jamais pécher. On sera capable de saisir les intentions des gens autour, voir leur cœur, être capable de les aider vraiment. On aura tout ce qu'il faut, comme le Christ faisait. On aura les mêmes capacités. Et après le retour de Christ, tous les êtres humains qui seront survivants de la Troisième Guerre mondiale auront à ce moment-là leur première occasion d'être appelés par le gouverneur de l'univers, d'être attirés au Christ comme vous et moi, nous le sommes actuellement. Ce sera leur première occasion d'être appelés vers le salut, c'est-à-dire vers la vie éternelle eux aussi et vers la possibilité de naître un jour dans la famille de Dieu. S'ils acceptent de faire sa volonté à leur tour et s'ils travaillent à éliminer graduellement le péché de leur vie. Parce que les êtres humains, au moment du début du règne du Christ sur la terre, auront encore avec eux leur ancienne nature humaine. Il y aura des combats, ils vont manquer leur coup encore, ils vont pécher encore, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Bible qu'il y aura des gens à côté d'eux qui vont leur dire « Allez de ce côté-là et non pas à droite, allez à gauche, parce que c'est la voie de Dieu. Suivez telle voie. » On va les enseigner, on va les aider, parce que les gens ne seront pas parfaits, ils auront besoin. Et à ce moment-là, ça ne sera pas surprenant que l'ensemble de l'humanité va accepter de suivre les voies de Dieu, parce qu'ils auront sorti de la grande détresse, une situation horrible, la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité, une détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais après. Les cœurs seront disposés. C'est pour ça qu'on voyait tantôt dans Ésaïe 2 que les gens vont se tourner vers Jérusalem et ils vont dire au Christ et à nous qui serons là, j'espère qu'on tiendra le coup, et ils nous diront « Montrez-nous la voie, on veut être heureux, on a tellement souffert, on veut vivre autrement qu'avant. » Et je peux vous dire que la famille divine à ce moment-là deviendra très, très, très nombreuse graduellement. C'est vraiment formidable. Dans le fond, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est l'essentiel du plan de Dieu, là. Mais vu avec une perspective vraiment globale, avec la vision que Dieu nous donne à partir de sa parole. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Regardez ce qu'il nous dit clairement. Sortez d'eux. Sortez du milieu d'eux. Pourquoi il dit ça? Sortez de la société où vous êtes. Ça ne veut pas dire de sortir du monde. On est obligé de travailler dans le monde, de voyager dans le monde, de faire commerce avec le monde, de s'occuper de nos voisins et ainsi de suite. Mais il dit, sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6 et le verset 17. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire d'aller vivre dans un monastère ou d'aller vivre dans le désert. Mais séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Voyez-vous, c'est la condition pour qu'il nous accueille. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Formidable. Voici l'incroyable potentialité humaine. C'est ce qui nous attend. Vérifiez ces choses-là. Des choses qui dépassent l'entendement humain, mais qui font rêver parce que c'est la réalité des promesses divines de Dieu.